à toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Le Racing battu à la Méno pour la première fois de la saison par Lens, c'était vendredi. On a eu 3 jours pour mariner, bouillir et vous préparer. Cette émission l'a laissé mijoter tranquillement. On en parle ce soir avec Anthony Levengut. Salut Anthony.
Salut Mathieu.
Planète Racing sur RBS.
Tous les mardis, 21h-22h.
En échauffement ce soir, donc chez nous. Et Sébastien Stahl, entraîneur de la FAIG en R1. Comment ça va Sébastien?
Ça va, très bien, merci. Bonsoir à vous.
Allez, on va repartir pour cette 7ème journée de Ligue 1. Le Racing 8ème pourtant du championnat, mais le Racing est certain de ses joueurs sifflés comme jamais, depuis très longtemps en tout cas, par une partie de leur public. La preuve, bien pauvre prestation. On parlera de ce match, de cette première défaite à domicile, des attaquants qui sont le grand chantier, l'animation offensive a encore pêché. Puis on se demandera, c'est qui le patron dans cette équipe? Et puis on parlera bien sûr de Nantes, le prochain visiteur à la Méno. Ce sera ce vendredi. Voilà pour le programme de ce Cop Racing. Le Racing n'est donc plus invaincu à la Méno. 3e défaite de la saison, la première donc devant son public. Tout ça face au vice-champion de France. Anthony, un match et un résultat surtout. Plutôt déçu, plutôt frustré.
Insipide, on s'y attendait. On est passé, je disais, il y a un mois, on était nul à chier. On est passé nul à chier à chier. Donc il y a quand même une évolution positive. Mais c'est en fait, moi je dis souvent aux copains, j'ai l'impression quand je viens au stade, et Dieu sait que j'aime le Racing, que je perds 90 minutes de ma vie. Parce qu'en fait, il se passe pas grand chose. Alors là, ce coup-ci, à leur décharge, on a eu un bon premier quart d'heure, ou en tout cas un quart d'heure un peu plus offensif, où on s'est créé quelques occasions, par Bakwa, par Angelo. Mais au final, c'est quand même très stérile offensivement. En fait, on n'apporte pas grand-chose. Le seul dynamiteur dans cette équipe, c'est Angelo. C'est lui qui amène un peu de fraîcheur,
un
peu d'envie.
On va parler justement effectivement de l'animation offensive dans un instant. Sébastien, est-ce que tu es plus nuancé ou tout aussi sceptique qu'Anthony?
Non, c'est sûr qu'on a du mal à voir un petit peu où l'équipe veut aller surtout, en fait, sur son animation. Donc je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'effectif qu'il y a en place, c'est qu'est-ce que le Racing doit mettre en place pour avoir un style de jeu propre à lui. Et là, je pense que ça se voit sur les deux animations qu'il a voulu mettre en place aussi, aussi bien sur l'aspect défensif et le modifier sur l'aspect offensif. Mais quand vous n'avez pas vraiment le ballon, on se retrouve quand même à défendre quand même un peu plus.
Donc, quand on disait, il y a eu une bonne entame, pourtant tu as cru que c'était la bonne, que c'était parti, qu'on avait enclenché quelque chose?
Alors on a eu une bonne entame, pourquoi? Par rapport justement à ces phases de transition. On se montre dangereux sur ces phases de transition et on sait le faire. Donc pourquoi pas justement optimiser notre jeu sur ces phases-là et sur notre pressing. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, Strasbourg a peut-être justement quelque chose à tirer des leçons de ce genre de match. Ouais.
Anthony, je me fais l'avocat de la défense dans tous les sens du terme. Est-ce qu'on n'a pas quand même trouvé, notamment défensivement, un peu plus d'assises sur ce match? Lens a quand même des occasions en toute fin de match, certes, mais n'a quand même eu très peu de situations pendant quasiment une heure, même s'il marque évidemment sur cette séquence. Est-ce qu'il n'y a pas des progrès malgré tout?
Alors si, quand on regarde par rapport à la période Julien Stéphan, où on prenait 2-3 buts par match sur la fin de son mandat, c'est vrai qu'il y a du mieux, mais pour moi, on va dire que c'est un reliquat d'héritage de Frédéric Antonetti qui avait ramené cette rigueur et cette grinta de nouveau. On a trouvé notre défense, ça c'est sûr. On a trouvé notre milieu, je le pense. Par contre, on n'a pas trouvé notre attaque. Et la première défense, pour moi, c'est l'attaque. Et malheureusement, et j'ai rien contre ce jeune, mais quand tu vois Emega qui fait pas le premier pressing, je sais pas si c'est ce qu'on lui demande ou pas. Mais en tout cas, déjà, ça part de là. Il va pas au duel, il fait pas le premier pressing. Le but est partagé, le premier but de Niamsi, avec une mauvaise relance suivie d'un mauvais repli défensif, suivi de Emega qui va pas au duel, qui voit le ballon, qui est prêt à le prendre et au final il y va pas. Mais je veux dire, c'est courant chez lui et on n'a pas de neuf, on n'a plus de vrai neuf. Le style du jeu du Racing, c'était un jeu de haut but avec Ajorc, avec Diallo, capable de garder le ballon pendant 1-2 secondes le temps que le bloc remonte. Là, on l'a plus.
On a plus ce profil-là.
On a plus ce profil-là. Et c'est vraiment ce qui manque encore à Strasbourg pour pouvoir se créer, je pense, des occasions offensivement.
On va parler justement du domaine offensif qui inquiète. Un petit coup d'œil au classement, peut-être juste avant ça. Parce que si on ne regarde que le classement, malgré tout, le Racing est plutôt s'en sort pas trop mal pour l'instant. Hein, même s'il perd 2 places sur cette journée, il est 8e avec ses 3 victoires qui le mettent confortablement, on va dire, dans le ventre mou, dans le milieu du tableau. On a dit qu'on allait parler de l'attaque. C'est un peu le désert, effectivement, le gros souci du Racing. Très peu d'occasions, Sébastien, encore une fois, de tirs cadrés sur ce match. Le Racing est la 3e plus mauvaise attaque du championnat. Tu T'es assez d'accord? Le reste commence à se stabiliser peut-être? Et ça pêche devant ou c'est vraiment un problème global?
Non, mais je pense que par rapport à leur animation défensive, ça reste cohérent, puisqu'on l'a vu même sur les matchs précédents où c'était quand même Strasbourg qui était assez solide. Après, c'est le système qui veut ça. Quand vous avez une ligne de 5, une ligne de 4, ben, faut arriver à la transpercer. Et c'est pas évident pour leur adversaire. Donc ça, je pense qu'ils le maîtrisent. Après, derrière, c'est sûr que... forcément, quand tu es dans cette phase-là, est-ce que derrière la phase offensive, c'est toujours la plus compliquée à travailler? Se créer des situations, c'est plus compliqué en soi. Mais aujourd'hui, oui, c'est ce qui est pénalisant et ce qui est dommage, c'est que le non, trop peu de situations créées sur l'animation offensive. Et là, je pense que derrière, c'est l'identité de jeu de Strasbourg qui doit être éventuellement revue, de savoir ce qu'on fait, ce qu'on doit faire pour pouvoir mettre à mal l'adversaire. On peut refuser le jeu, mais en refusant le jeu, on peut très bien se créer des situations, des opportunités sur des phases de transition, sur lesquelles là-dessus, on doit être encore plus tranchant que ce qu'on l'est. Donc après, c'est une volonté, ça sera un choix justement du coach de savoir comment on veut attaquer, comment on veut faire mal aux équipes adverses.
Anthony, toi qui aimes bien l'histoire aussi du Racing, on a rarement vu un Racing aussi pauvre offensivement se créer aussi peu d'occasions depuis, je ne sais pas, 20-30 ans que tu fréquentes la Meno.
J'ai pas souvenir, sous Jean-Pierre Papin, on gagnait un peu à l'arrache, avec Moulungi à la 96e sur une main inverse. Voilà. Mais c'était pas flamboyant, mais on gagnait et c'était à l'arrache. Mais à la limite, c'était la Ligue 2, c'est autre chose qu'on demandait aussi. Là, c'est vrai que limite, quand on a un tir cadré, on exulte, parce que c'est peut-être le seul qu'on aura vu du match, quoi. Moi, je pense vraiment, en fait, comme dit, le jeu du Racing, c'était un jeu dos au but et un jeu composé de centres. C'était essentiellement ça par le passé. On est resté un peu sur ça. Malheureusement, on a un œuf qui n'est pas très très bon de la tête, même s'il a marqué contre Lyon de la tête, mais c'était plutôt un épiphénomène qu'autre chose. Je verrais bien remettre Emega sur une aile parce qu'il est quand même assez rapide et trouver. Alors, j'aime bien Motiba par sa fraîcheur, même si là, il n'a pas apporté ce coup-ci, mais de trouver un œuf qui est capable de garder le ballon. Dos au but, puisque c'est le jeu historique du Racing, ou alors ce qu'a fait Emega face à Metz, c'est de redescendre pour casser des lignes, mais on lui donnait balle au pied. Et donc, du coup, bah, ça créait de l'espace, ça emmenait le joueur avec lui, et ça permettait de basculer d'un côté. Mais là, lui donner des ballons, comme on le fait à l'heure actuelle, où on sait qu'il va pas y aller, bah, ça sert à rien, tout simplement.
Regardez ce chiffre d'ailleurs assez révélateur de la disette offensive du Racing ce vendredi soir à la Meno. Ce chiffre, c'est 6 comme le nombre de ballons touchés par le Racing dans la surface adverse. C'est... j'ai pas compris par rapport au match précédent, mais Sébastien, quand on touche 6 ballons dans la surface adverse, tu fais du foot, là on est sur 100 minutes quasiment, plus avec le temps additionnel, enfin c'est compliqué de marquer quand on a dit ça.
Ah, c'est sûr que ce genre de stats là vous montre clairement comme quoi on est inoffensif, donc et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un très gros chantier. Alors par rapport à l'effectif, oui, par rapport aux joueurs, certainement aussi, mais par rapport à cette animation de comment on veut porter le danger dans la surface adverse. Mais que ce soit la prise de risque, que ce soit la prise de profondeur, sur ce match, moi, de vendredi, j'ai trouvé justement trop peu de mouvements pour étirer cette défense de Lens, que ce soit des appels en profondeur, des décrochages dans les interlignes, du jeu un peu plus combiné pour pouvoir voilà, faire exploser cette défense. Mais encore une fois, c'est aujourd'hui, je pense que on a perdu, oui, des joueurs offensifs qui étaient solides, comme Diallo, qui nous a fait une très grosse deuxième partie de saison l'année dernière. Et aujourd'hui, on n'a pas ce profil-là qui monopolise une défense et qui ouvre des brèches derrière. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, Emenga est en difficulté, et ça se ressent, hein, le fait de pas avoir ce profil-là qui mette les défenses à mal.
Un petit peu abandonné effectivement aussi aux avant-postes, troisième et dernière séquence de cette première mi-temps de Cop Racing. On l'a intitulé « C'est qui le patron ?» C'est qui le patron, Anto, dans cette équipe? On avait déjà effleuré le sujet en début de saison parce qu'on sentait bien que de se dire « Mais qui allait porter un petit peu cette équipe, incarner le leadership mental, le leadership technique aussi ?» On parlait d'Emmanuel Emega, c'est quand même 20 ans, Angelo à ses côtés 18, Habib Dira 19. On a quand même des joueurs chargés qui donnent les clés de l'animation, qui sont extrêmement jeunes.
Je trouve qu'il n'y en a pas trop. On va dire que Angelo a pris le leadership technique sur le terrain. On sait qu'il va tenter plein de fois, il y a un moment donné ça va passer, il va se passer quelque chose. Moi, sur le match de Lens, je me dis il va marquer, c'est sûr, parce qu'il était à chaque fois à deux doigts, il mettait le bon ballon, ça va passer. Après, le leader mental... Il y avait Gilbert qui était titulaire en début de saison, qui a perdu sa place là face à Senaya, et je pense qu'il l'a perdu pendant un petit moment, puisque Senaya fait des matchs corrects aussi. Mais C'est vrai que c'est partagé entre Niamsi, entre Cels, mais il n'y a pas de vrai aboyeur, de vrai leader. Je pense que c'est vraiment ce qui manque et ce qu'il faudra regarder au mercato. Arrêter de regarder des jeunes.
T'es déjà au mercato.
Des jeunes potentiels, oui, parce que moi je suis au mercato depuis 4 matchs. Hein. Des jeunes potentiels et trouver un joueur d'expérience comme Morgan Sanson, un exemple qui capable de par son expérience d'être un leader technique, mais aussi un leader dans le vestiaire.
Attention, parce que dans le parti recrutement, on a dit qu'on ne recrutait pas de joueurs de plus de 23 ans. Donc, Sébastien, le casse-tête continue. À qui tu confies les clés du camion dans cette équipe, ou qui vois-tu les prendre?
C'est compliqué, puisque derrière, on parle surtout d'expérience, en fait. Donc, et c'est sûr qu'aujourd'hui, que ce soit Diarra, comme vous l'avez dit, que ce soit Angelo, que ce soit Emenga, c'est des joueurs qui ont du fort potentiel, mais qui doivent être encadrés autour de ça. Cels est très loin dans le jeu, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est Cels, on va dire, la pierre de l'édifice. Mais ce n'est pas le relais sur le terrain et qui peut organiser, on va dire, le pressing, faire remonter le bloc et tout ça.
Donc, très nerveux aussi, Matt Cels, quand même, hein. Il est quand même beaucoup dans la communication, parfois un peu à houspiller ses défenseurs. Enfin,
ah oui, c'est sûr, mais ça c'est son rôle.
Capitaine toi, mais
ça c'est son rôle, c'est son rôle de bouger sa défense et de faire en sorte que les placements soient respectés. Maintenant, il y a tout. Une autre partie sur le pressing, sur l'animation, sur le fait de faire remonter le bloc, de défendre en avançant, enfin et cette chose-là, aujourd'hui, moi personnellement, je vois pas trop qui au milieu de terrain ou derrière en défense centrale est capable, si vous voulez, de prendre vraiment l'équipe par la main, quoi.
On va parler de la suite, notamment effectivement de tous les défis qui se posent au Racing. On parlera de Nantes qui débarque à la Véno. Ce sera ce vendredi soir. Tout ça dans un petit instant. On revient pour la deuxième mi-temps de Club Racing. Club Racing de retour pour la deuxième partie de cette émission. On parlera du match de vendredi. C'est Nantes qui arrive à la Méno, coup d'envoi 21h. Avant ça, on va revenir sur quelque chose qu'on n'avait pas vu, ou plutôt entendu depuis très très longtemps. Des sifflets à la mi-temps pour accompagner les joueurs en vestiaire, des sifflets à la fin du match, des sifflets aussi sur les remplacements de joueurs, notamment Emmanuel Emega. J'ai, Anthony, pas souvenir d'avoir entendu ça depuis quasiment 15 ans, depuis la remontée, depuis les tréfonds du monde amateur. Qu'est-ce que ces sifflets veulent dire?
Et j'avoue, j'en ai fait partie. J'ai jamais sifflé Racing que depuis deux matchs. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une frustration des supporters. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ici, mais entre le projet que Marc Keller a vendu en disant on va passer un cap, tout dans la continuité, et ce qui est en train de se passer au final. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement on prend des joueurs peut-être à potentiel, mais on est en train de régresser. On le voit pas encore au classement, mais dans un ou deux matchs on le verra, puisqu'on est qu'à 3 points de la 15e place, si je me trompe pas. Mais c'est surtout en fait ce que les Alsaciens demandaient pas à ce qu'on soit en Ligue des Champions tous les ans. Ils demandaient à se retrouver dans un club avec une identité et des valeurs. Ce qu'on avait jusqu'à maintenant, quand je prends Anthony Gonsalves, c'est un mec, tu sais que techniquement c'est pas Zidane, mais par contre, je me souviens d'un match face à Metz où il met un coup de coude, le mec vole sur le banc, et derrière on centre et c'est Camarque. C'est ça qu'on demande, c'est que les mecs se défoncent à 300%. Quand Emega sort, Emega, la stat du match quand même, il touche 8 ballons, 6 passes, 2 duels ratés et 2 passes ratées, sur 70 minutes. Même lui, je pense qu'il sait pourquoi il sprint pour sortir.
Un jaune, ouais.
Et il sait pourquoi il sprint parce que en fait, on a l'impression que certains ne jouent mouillent pas le maillot, jouent pas le jeu. C'est les anciens qui montrent l'exemple.
C'est le niveau et c'est le, je sais pas comment il faut dire, on en reparlera.
Le projet.
Tromperie sur le projet.
Sur la marchandise.
C'est sifflé, ton surpris. Ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas entendu ça.
Alors, sifflé, on peut montrer du mécontentement sur le jeu, oui, qu'on voit de Strasbourg. Après. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas sifflé Strasbourg ces dernières années, quand c'était très compliqué l'année dernière. On a traversé des périodes très compliquées. Là, on est quand même. Alors, Anthony disait, on est à 3 points du 15e, ok, mais on est à 4 points du 1er. Ça dépend comment on voit la chose.
Leader vendredi soir.
Alors, la seule chose, c'est que oui, c'est vrai que dans le jeu, c'est triste et pauvre. Et je pense qu'on s'attendait à voir beaucoup mieux. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'effectif qui est en place nous permet justement d'avoir une équipe qui joue alléchante et tout? Personnellement, je pense pas, et c'est pour ça je pense qu'il faut trouver vraiment notre identité de jeu, et ça va passer par une prise de conscience de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on peut proposer là où on est costaud, et sur quoi il faut s'appuyer, quoi. Donc il y a des choses sur lesquelles on doit s'appuyer et des choses sur lesquelles où il faut corriger notre animation offensive, mais j'ai pour espoir que ça vienne.
Faut être patient,
je pense.
C'est ce que réclame le coach aussi, Patrick Vieira, qui a trouvé assez injuste les sifflets vis-à-vis d'Emmanuel et Méga notamment. Le public de la Méno, historiquement, était plutôt très dur. Le passage dans le monde amateur avait ramené un nouveau public qui était plutôt très, très, très tolérant, effectivement, par rapport à certaines contre-performances, comme Sébastien le rappelait notamment l'an dernier ou sur certaines saisons passées. Pour toi, c'est vraiment le côté quoi, tromperie sur la marchandise, sur le projet.
Les deux, tromperies sur la marchandise, le fait que tu vois que les joueurs, ils mouillent pas le maillot à 100%. Je dis pas tous, je dis certains. Et ce que je disais, c'est vraiment les anciens qui tiennent la baraque. C'est Delaine, c'est Gilbert qui joue plus, mais voilà. Ou ceux du centre de formation, c'est Naya qui a vraiment envie. Mais les recrues, à part Angelo, on peut pas dire que le recrutement est génial. Silla ne joue plus, problème disciplinaire. Emega, il a mis un but, mais sinon c'est morne pleine. Bakwa, ça va à peu près. Emega, on le voit pas. Esso, il a toujours pas sorti la tête du seau, façon de parler. On l'a toujours pas vu et on sait pas si on le verra jouer. Voilà,
en fait, ça a coûté 55 millions d'euros.
Et ça a coûté 55 millions d'euros. Quand tu mets 55 millions d'euros, on se dit, bah voilà, 55 millions d'euros, je peux avoir peut-être un Bourigeaud, un Benjamin André, un Rémi Cabella. Voilà. Et j'ai une équipe qui
beaucoup
a un peu plus...
âgée, monsieur.
Oui, mais qui a un peu plus de gueule. Et je sais ce que j'ai. Là, en fait, on a mis 55 millions dans une équipe qui va jouer le maintien, quoi. C'est pour ça que je dis, il y a vraiment tromperie sur la marchandise.
Ceci dit, c'était annoncé, Sébastien. On avait annoncé qu'il y aurait des jeunes joueurs, on a annoncé vouloir faire du trading, on a annoncé qu'il fallait être patient. Le public n'est finalement pas prêt à entendre ça.
Ben, il y a toujours cet enjeu, alors oui, financier derrière. Après, il y a l'enjeu sportif et de compétition. Et on voit que l'expérience quand même du niveau, la Ligue 1 nécessite quand même une certaine expérience et aujourd'hui c'est vrai que l'équipe est très jeune. Donc est-ce que avec le temps,
23 ans je crois de moyenne d'âge, l'équipe celle de Metz est là, je crois que c'est la plus jeune quasiment jamais alignée par le Racing, enfin, depuis quasiment 15 ou 20 ans.
Donc je pense qu'il y a pas de secret non plus par rapport à ça. Maintenant oui, il y a du potentiel, mais je pense que comme je disais la dernière fois, il faut être assez pragmatique et là encore une fois rester sur des choses simples pour être compétitif. Et moi, personnellement, sur le dernier match, changer d'animation sur la phase offensive, quand on a le ballon, je veux bien. Mais il faut en l'occurrence l'avoir, le ballon. Et chose que Strasbourg ne réussit pas à faire aujourd'hui, à garder un petit peu cette maîtrise du jeu, à garder des certains temps de possession un petit peu plus longs pour déséquilibrer l'adversaire. Et c'est là aujourd'hui où Strasbourg, je pense, a un gros chantier.
Et statistiquement, le Racing a toujours eu moins le ballon que ses adversaires. Allez, dernière partie de cette émission, car le temps file. On va parler des Canaries qui débarquent donc à la Méno vendredi soir. Nantes qui s'est inclinée, hein, c'était à Rennes hier soir, en clôture de cette septième journée, qui sera là sans Mostafa Mohamed, qui a été expulsé lors de ce match. Il y a Rennes et Paris derrière, hein, quand même, en déplacement tous les deux. Anto, 3 points feraient beaucoup de bien.
Mais là, on commence, enfin, juste avec Rennes, c'est notre championnat. Enfin, Nantes, pardon, c'est notre championnat. Donc là, c'est vraiment un vrai test match. On va dire que le match de Lens était assez fermé. On joue, comme dit l'ancien vice-champion de France, qui, pour moi, a perdu de son niveau du fait de ses départs. Là, on joue Nantes, qui a failli descendre en Ligue 2, qui est sur un nouveau cycle, mais qui va être compliqué pour eux aussi. Donc là, c'est vraiment un vrai test match. Et j'espère que cette semaine, en fait, Patrick Vieira, à l'entraînement, va travailler les phases offensives. Moi, j'ai envie de leur refaire le tifo que Nancy avait fait dans le temps en mettant le but, c'est ici.
Avec une flèche qui montrait en
bas de la tribune. Qui montrait le but. Julien Stéphan avait travaillé ça à un moment donné quand on avait un peu moins de tirs. C'était se dire, à chaque fois qu'on a une position de frappe, tenter, arrêter de décaler. Vraiment, si on veut gagner, c'est simple, le foot, il faut juste tenter des frappes et tirer. Voilà. Et nous, sur un match, c'est trop peu. Donc là, le match de Nantes, pour moi, c'est un tournant, surtout après deux matchs compliqués, même si Paris ne tourne pas des masses. 0-0 à Toulouse, ce n'est pas le meilleur résultat pour Paris. Mais voilà, le match de Nantes, c'est 3 points ou rien.
Sébastien, est-ce que tu tentes des choses sur ce match? Est-ce que tu fais des changements?
Alors, je ne sais pas pour faire des changements. Maintenant, moi, j'ai vu le match de Nantes hier contre Rennes. Et je pense que Strasbourg a vraiment les capacités de pouvoir faire mal à Nantes si on organise un pressing de haute intensité. Et ça, on sait faire. Le pressing et le contre-pressing, je crois que ça sera une des clés du match contre Nantes. Et parce qu'ils sont vraiment en difficulté face à des joueurs qui viennent les chercher. Et ça, Strasbourg sait le faire. Le pressing, quand il est bien organisé, et ça nous permet justement de nous créer beaucoup de situations. Et je pense que les trois quarts des situations que Strasbourg se crée, c'est sur des phases de transition. Et je pense qu'on est vraiment en capacité de la faire mal sur ce plan de jeu-là. Donc à voir maintenant ce que Strasbourg, comment on va travailler ce match-là, mais ça peut être une des solutions. Donc
surtout qu'il y a du temps parlé avant, qu'il y a du mal à enchaîner des temps forts, hein, sur ce match de Lens. Il y a aucun moment, enfin à part le début de match qui est réussi, même quand on est dans la réaction, même en fin de match quand on fait beaucoup de changements, on a du mal à enflammer entre guillemets le truc, à camper devant le but adverse, à avoir un vrai temps fort.
Non, c'est sûr. Même là, on l'a vu quand même sur les 5 dernières minutes où derrière on veut presser, y aller, on met un peu plus de danger, mais c'est toujours embêtant d'attendre les 5-10 dernières minutes pour pouvoir mettre un peu plus de pression, pour pouvoir dire j'y vais un petit peu plus. Maintenant, comme dit, je pense que Nantes n'est pas au mieux de sa forme non plus. Donc on a vu un gardien hier qui était assez fébrile, un carton rouge de prix. Alors c'est organisé. Je pense que individuellement ou collectivement, il y a quand même des joueurs un peu plus expérimentés peut-être que Strasbourg. Mais Strasbourg, avec son pressing et avec son intensité, peut faire mal à Nantes. Et il faudra.
Tu es optimiste, Anthony. En 30 secondes, je suis désolé, qu'est-ce que tu tentes comme coup contre Nantes? Qu'est-ce que tu as envie de voir?
Moi, je sortirais Bakua du groupe. Je mettrais Mega et Elias à sa place. Parce que je pense qu'il a cette vitesse de percussion qu'a Angelo pour pouvoir rentrer. Par contre, dans les duels de la tête, pas du tout. Et je mettrais Motiba en 9 pour pouvoir garder les ballons de haut but. C'était ce que je tenterais sur ce match. Le 4-3-3 offensivement, ça va bien. 5-4-1 en phase défensive, très bien. Par contre, je ne laisserai plus Emega seul en pointe. Parce que là c'est autant jouer à 10. Quoi.
Ouais, ni pour lui, ni pour le groupe. Allez, vous le savez, dans Cop Racing, on ne parle pas que de football. Petit retour sur l'actu sportive alsacienne de ce week-end. C'est parti.
Mission accomplie pour la SIG, qualifiée pour la phase finale de la Ligue des Champions. Opposée à l'équipe espagnole d'Obraidoro lors de la finale des qualifications samedi, l'équipe strasbourgeoise était pourtant menée à l'issue du premier quart-temps. Mais emmenée par ses deux leaders offensifs, Quinton Hooker 18 points et Phil Bouz 17 points, le club alsacien a su inverser la tendance. Plus 6 pour la SIG à l'entame du dernier quart-temps. Strasbourg conservera son avance pour s'imposer finalement 82-78. Quart de finaliste de la compétition la saison dernière, la SIG espère faire mieux cette année. En handball, Célesta a conforté sa place sur le podium de la D2 grâce à sa victoire sur le parquet de Cherbourg. Battu la semaine dernière par le promu Cournon d'Auvergne, les Célestadiens se devaient de réagir et ils l'ont fait à l'arraché avec les tripes en l'emportant d'un petit but. Victoire 28-26 des Alsaciens qui auront à cœur de faire mieux dans le jeu vendredi à domicile face à Porto Combo. Et puis une mauvaise nouvelle pour le gymnaste alsacien Benjamin Osberger. Il ne fera pas partie de l'aventure Paris 2024. Lui et ses coéquipiers tricolores ne sont pas parvenus à se qualifier pour la compétition par équipe des prochains Jeux Olympiques hier lors des Mondiaux d'Anvers. Après un début de concours correct, ils ont enchaîné les erreurs à partir des barres parallèles avant de s'effondrer et même de chuter pour certains au cheval d'Arçon. Résultat, il termine à la 19e place, loin de la 12e place qui leur aurait assuré la qualification.
Voilà pour ce petit tour d'horizon. C'est déjà la fin de ce Cop Racing. Ça file très très vite. Sébastien, tu vas filer à l'entraînement d'ailleurs pour commencer là.
Oui, je suis un petit peu en retard.
Un petit peu en retard. On va te libérer. Match ce week-end.
Match ce week-end au FC Mulhouse.
Allez, chez l'ami Fares Bramia, entre autres.
Chez l'ami Fares.
Un autre habitué du plateau. Anthony, rendez-vous
demain soir.
Évidemment, RBS.
21h-22h, 91.9 FM.
Le programme.
Bah, on va faire la même chose qu'ici, hein, revenir sur le match de Lens et analyser comment on pourrait gagner le match de Nantes.
Eh ben voilà, une bonne idée. Si tu as une idée, tu peux écrire au coach Vieira, il sera peut-être preneur de tes conseils. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été sur le plateau de Cop Racing. On vous donne rendez-vous évidemment lundi prochain, le match de Nantes, évidemment, vendredi soir, 21h à la Méno. Excellente soirée à toutes et à tous.